Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone le musicien, musicologue et chef de chœur Hector Sabot, qui vient de publier aux éditions de l'Institut européen des musiques juives un disque intitulé « Jacques Offenbach et ses proches, de la synagogue à l'opéra ». Alors, inscrivez dans vos tablettes dès à présent que ce programme sera donné à la Salle Cortot de Paris le dimanche 17 novembre 2019 à 17h dans le cadre du concert de gala de l'Institut européen des musiques juives. Je vous redonnerai tous les détails, bien entendu, à la fin de cette émission. Hector Sabot, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Alors, je suis ravi de vous retrouver, même si c'est à distance, mais vous habitez à Strasbourg. Et si Strasbourg est près de notre cœur, il est un peu loin pour que vous puissiez faire le déplacement. Donc, merci d'avoir bien voulu nous consacrer un peu de temps pour qu'on puisse parler de ce disque et en particulier de deux compositeurs, Fromental Halevi et Giacomo Meyerbeer, dont on va entendre de nombreuses musiques. Alors, avant qu'on écoute un premier extrait de votre disque, pourriez-vous nous dire en quelques mots comment est née l'idée de ce disque, quel en est le fil conducteur, et nous présenter vraiment en quelques phrases l'ensemble vocal, la truite lyrique que vous dirigez?
Bien entendu. Donc ce disque est venu un peu de Paris, un peu d'Israël. En fait, je suis en contact avec de nombreuses années avec le musicologue israélien qui habite à Jérusalem depuis très longtemps, et Jacob Kaufmann, qui est aussi un compatriote, parce qu'il est originaire d'Argentine, comme moi. Et il m'a toujours parlé de sa passion, de ses recherches, de Jacques Offenbach, son père, et tout ce qui entourait cette musique mal connue, ici même en France, et bien entendu dans le monde entier. Et donc, quand il a pris contact avec vous, Hervé, et il m'a demandé si je vous connaissais, j'ai dit oui, bien entendu, je connais Hervé depuis longtemps, et il m'a dit qu'est-ce que ce serait bien de fêter le bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach en faisant connaître en même temps ses œuvres à lui, ses œuvres hébraïques et les œuvres du père et de tout ce qui gravitait autour de ces musiciens juifs à Paris au 19e siècle. J'ai dit oui, ce serait une formidable idée. Et il m'a dit mais tu connais Hervé, tu penses qu'il serait intéressé? J'ai dit ouais, il suffit de lui demander. Je pense que Hervé est toujours intéressé par des projets intéressants. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a parlé, vous m'avez appelé, et puis j'étais bien entendu partant parce que je connaissais ces musiques depuis longtemps, mais il était difficile de les faire connaître, de les faire entendre, parce que, et il faut dire la vérité, c'est des musiques rares que moi-même je connaissais à peine et que j'ai découvert avec émerveillement quand j'ai reçu les partitions d'Israël que par votre biais vous avez fait envoyer. Et puis voilà, on s'est mis au travail et aujourd'hui on est franchement en admiration des résultats que nous avons pu obtenir parce qu'on ne soupçonnait pas autant de richesses mal connues.
Alors il faut dire que ces partitions dont vous parlez Hector, celles de Jacques et Isaac Offenbach, sont bien conservées à la fois aux États-Unis et en Israël, mais n'ont pas été publiées, ne sont pas éditées. Et donc, c'est effectivement... alors, Jacobo Kaufmann, je ne le prononcerai pas à l'espagnol parce que je ne me risquerai pas là-dedans, je ne parle pas du tout l'espagnol, mais il y a déjà une vingtaine d'années de ça, avait publié un disque avec Raymond Goldstein autour des chants de la synagogue d'Isaac et Jacques Offenbach. Et ce disque est totalement épuisé. Et puis, entre-temps, ils ont retrouvé d'autres partitions. Ils ont fait tout un travail d'arrangement. Et il était urgent de remettre un petit peu cette musique à l'honneur, de faire connaître ces nouveaux morceaux qui n'ont jamais été publiés sur CD. Et c'est ce que nous avons fait ensemble à travers ce disque. Alors, mais ce disque n'est pas uniquement consacré à Jacques et Isaac Offenbach. En fait, quel en est le fil conducteur? Pourquoi Jacques Offenbach et ses proches, en fait?
Qu'en fait, quand on lit la biographie de Jacques Offenbach, on voit qu'autour de lui, il y avait un certain nombre de musiciens qui tournaient à Paris, qui partageaient ses productions théâtrales, et à l'Opéra Bouffe notamment, et des gens qui venaient notamment d'Alsace, comme Jules Erlanger, ou Erlanger, comme on veut le prononcer. Il y avait les Parisiens Émile Jonas aussi, qui était un personnage assez important, haut en couleur. Il y avait Fromental et Lévy, qui était un peu les papas de tous ces gens-là. Il était les professeurs de composition de la plupart des jeunes musiciens français de l'époque. Et il a accompagné, effectivement, l'évolution de tous ces musiciens. Et donc, quand on a discuté de la possibilité de faire un disque, les noms de Giacomo Meyerbeer, notamment, qui était un Berlinois qui gravitait beaucoup à Paris à l'époque, qui était en rapport avec Samuel Nombourg, qui était très actif à la synagogue de Notre-Dame de Nazareth, et Émile Jonas, qui jouait de l'orgue, qui composait pour la synagogue de rite portugais. Enfin, tous ces personnages qui se sont fréquentés et ont produit, à côté de leur production opératique, et des œuvres hébraïques, des œuvres pour les cultes, pour la liturgie synagogale. Et donc, vous nous avez donné l'occasion merveilleuse de découvrir et de faire découvrir un certain nombre de ces œuvres et que nous aurons la joie d'entendre, bien entendu, avec ce disque qui vient de paraître.
Ce disque est le concert qui sera donc donné à Paris le 17 novembre à la Salle Courtois à 17h30. Alors, quelques mots juste sur l'ensemble vocal La Truite Lyrique que vous dirigez avant que nous écoutions le premier extrait musical.
Et voilà, La Truite Lyrique, c'est une invention plus ou moins récente, ça date d'il y a 3 ans. En fait, je travaille avec des groupes, des solistes à effectifs variables depuis de très longues années et au sein des Polyphonies Hébraïques de Strasbourg, qui est un grand chœur que je dirige depuis 23 ans ici à Strasbourg, il y a toujours eu des solistes qui ont été invités, qui ont été sollicités pour encadrer les amateurs du chœur. Et il m'a été demandé à de nombreuses reprises de constituer des groupes de 4, 5, 6, 7, 8, 9 solistes, et tous issus du milieu de l'opéra, bien entendu, pour faire des projets, des prestations, et pour explorer des répertoires nouveaux, un peu inédits. Et dans les dernières années, La Truite Lyrique s'est constituée autour de Dan Leclerc, qui est un producteur, qui est un communicateur, qui a beaucoup d'enthousiasme, qui m'a donné l'énergie et l'envie de monter des spectacles autour de la musique juive et la musique européenne en général, la musique classique, l'opéra. Et pourquoi La Truite? Parce qu'il y a Schubert, La Truite de Schubert, et que Schubert était très ami avec beaucoup de juifs en Autriche de son temps. Et donc sa relation amicale avec Zulzer, les Chazans de Vienne, a donné également une production assez intéressante autour de la musique hébraïque. Et puis lyrique, parce que ça chante et que c'est des chanteurs d'opéra. Et voilà, il y a tout un tas de spectacles qui ont été montés autour de cette thématique. Et nous voilà avec La Truite Lyrique et mes chanteurs hébraïques, qu'on pourrait dire, pour mettre en valeur tous ces beaux répertoires.
Alors, on va vous entendre de suite diriger donc l'ensemble vocal La Truite Lyrique dans une œuvre de Fromental à Lévy, son œuvre hébraïque peut-être la plus connue. Il s'agit du psaume 118, Min Hametzar, ou tout au moins un extrait, car cette œuvre dure plus de 7 minutes dans sa totalité. Min Hametzar, Fromental à Lévy, interprété par La Truite Lyrique, dirigée par Hector Sabot.
Oh,
Un extrait du psaume 118, Mina Metzar, de Fromental à Lévy, interprété ici par la truite lyrique dirigée par Hector Sabot, extrait donc du CD Jacques Offenbach et ses proches de la synagogue à l'opéra qui vient de paraître aux éditions de l'IEMJ. Alors Hector, quelques mots sur le psaume que nous venons d'entendre. Il s'agit d'une œuvre assez monumentale, comme on a pu le voir, mais de quand date ce psaume, cette pièce musicale, et pour qui a-t-elle été écrite ?
Et juste une petite précision avant de parler des détails, et les auditeurs qui ont l'oreille fine auront écouté tout un chœur derrière les 8 solistes de la truite lyrique, et il faut rappeler ici que nous avons pu compter avec le concours des 40 choristes des polyphonies hébraïques de Strasbourg, que je dirige également, et qui étaient entourés par les 8 solistes, donc on entend les solistes bien entendu, chacun son tour, mais il y a tout le chœur qui est derrière. Donc voilà cette petite précision pour montrer que c'est une œuvre grande. Ça me donne la chair des poules quand j'entends cette œuvre magnifique chantée avec autant de d'enthousiasme. Et cette œuvre, d'après les inscriptions qui figurent sur l'édition de Samuel Naumbourg, a été composée pour un mariage, pour le mariage d'une nièce, je crois,
d'un neveu, je crois.
Un neveu. Un neveu de. Et de Fromental à Lévy, et donc ça date à peu près des années, fin des années 1830 par là, et l'œuvre a été publiée par Naumbourg en 47, si ma mémoire est bonne, 1847, et c'est devenu un classique de la liturgie qui est chanté partout en Amérique, en Israël je pense aussi, et bien entendu en Europe. C'est l'œuvre vraiment la plus connue, la plus impressionnante, la plus opératique aussi, et je peux pas m'empêcher d'entendre des échos de la juive que tout le monde connaît, ou presque. Et donc, elle est très lyrique, cette œuvre, elle a une puissance, elle illustre à merveille les textes du psaume.
Et d'ailleurs, cette œuvre est tellement lyrique, elle a été donnée lors de l'inauguration du Temple de la Victoire, le 9 septembre 1874. C'était
exactement.
Un bel hommage à Fromental à Lévy et à la splendeur de ce psaume.
Exactement. Nous n'avons pas eu la chance d'écouter la totalité parce que, comme vous avez dit, c'est plus de 7 minutes. Mais il faut remarquer qu'il y a 7 solistes qui sont sollicités. Et à fur et à mesure, tout au long de l'œuvre, il y a un quatuor de voix des femmes. Il y a un trio d'hommes qui apparaît dans la dernière section. Et la partie principale, bien entendu, du ténor principal, la partie de Chazan, que nous avons entendu interprétée ici par Nicolas Kuhn, l'un des solistes de la truite lyrique.
Alors,
Et l'orgue, excusez-moi, j'oublie de citer l'orgue qui est un élément très important. Et je ne sais pas si tout le monde sait qu'à la synagogue de Notre-Dame de Nazareth, de la rue Notre-Dame de Nazareth, il y a un orgue Cavaillé-Coll, qui est parmi les plus beaux instruments parisiens du 19e siècle. Et donc nous avons eu la chance de compter avec un orgue de facture classique ici à Strasbourg, et qui met en valeur justement et qui donne toute sa brillance et toute sa beauté à la pièce pour accompagner l'ensemble des chanteurs.
Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire maintenant, nous présenter un peu plus en détail Fromental à Lévy? D'ailleurs, je ne sais jamais comment l'appeler exactement parce que son prénom présente de nombreuses variations. La BNF, par exemple, recense au moins 7 autres formes de noms. On l'appelle Fromental à Lévy avec un H au milieu, François à Lévy, Fromental Élie à Lévy, Jacques à Lévy, Jacques-François Fromental Élie à Lévy, Jacques Fromental à Lévy, Jacques Fromental Élie à Lévy, bref. On ne s'en tire pas avec tous les orthographes de son nom. Et cette multiplicité d'orthographes des prénoms de Lévy est tout à fait emblématique de la période d'intégration des Juifs, au cours de laquelle on leur imposait souvent de choisir un nom ou un prénom dans la langue de leur pays d'accueil. Et c'est ainsi que le fils de Julie Mayer, qui était sa mère, une juive lorraine, et d'Élie Lévy, donc son père, qui était originaire de Furf, une petite ville au nord de Nuremberg. Voilà, il va prendre pour nom Jacques-François Fromental Elias Lévy, donc il n'y a pas encore de Lévy. Mais après le décret de 1808 enjoignant aux Juifs de se faire enregistrer par l'État civil, donc le père, donc Élie Lévy, transformera le nom de son fils en Jacques-François Fromental à Lévy. C'est ainsi qu'on le connaîtra sous ce nom, son nom de scène. Voilà. Donc après
tout
cette.
À fait.
Voilà, cette
non,
discrétion, je reviens.
J'allais ajouter un petit
détail. Justement, je vous laisse la parole.
Un petit détail qui est très significatif. Quand les gens à qui je parle de Halévy ont l'air de ne pas connaître, je leur demande toujours, est-ce que vous savez où se trouve l'Opéra Garnier à Paris? C'est bien dans la rue Halévy.
Oui, et donc, son nom est marqué d'ailleurs sur la façade de l'opéra en grand. On est passé devant tout à l'heure et c'est vrai qu'on a vu tout de suite son nom, Fromental Halévy. Alors, Fromental Halévy, quelques points de repère sur sa vie. Je crois qu'il a été bercé par les chants de la synagogue aussi, puisque son père était assez actif à la synagogue.
Son père était, d'après les biographies qu'on a retrouvées, son père était cantor de synagogue, il était très actif au niveau de du chant synagogal, et donc le petit Jacques, comme on pouvait peut-être l'appeler, a baigné, comme beaucoup des petits juifs à l'époque, dans la musique de sa maison, de son enfance, de son père. Et il est vraisemblable qu'on retrouve des échos après dans les opéras, comme ce sera le cas de Jacques Offenbach et de beaucoup d'autres compositeurs qui sont nés dans sa tradition musicale.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est une des particularités du disque que vous avez enregistré, c'est qu'il réunit des compositeurs dont les parents sont, pour ainsi dire, presque tous nés au sein de la synagogue, ont été soit chantres, soit compositeurs, dont les enfants ont bercé dans cette musique synagogale et ont fait des carrières hors de la synagogue, souvent sur les plus grandes scènes d'opéra, mais n'ont jamais oublié d'où ils venaient, n'ont jamais oublié les chants de la synagogue et ont allègrement transposé une partie de leur inspiration, je dirais, synagogale dans leurs chants parfois opératiques et parfois dans l'autre sens également, comme on a pu l'entendre dans le psaume de Halévy. Alors, parlez-nous un petit peu plus de Fromental Halévy, parce que c'était un enfant prodige, d'après ce que j'ai compris.
Oui, c'était un enfant prodige, quelqu'un qui, tout petit, a montré des dons exceptionnels, qui a été présenté à Cherubini, qui était à l'époque le directeur du Conservatoire de Paris, qui l'a pris sous son aile et qui lui a donné ses premières leçons, effectivement, des compositions. Et très tôt, le jeune Halévy s'est retrouvé sur la scène à faire jouer sa musique, et il a vite commencé à écrire des productions lyriques. Il a remporté les prix des Roms, qui étaient les grands prix de la consacration des jeunes compositeurs de l'époque, et beaucoup des grands compositeurs français ont été à Rome pour ces prix. Et lorsqu'il était à Rome, si ma mémoire est bonne, il y a eu un événement à Paris qui a bouleversé un peu la monarchie de l'époque. On a assassiné un personnage très connu de l'époque, qui était un successeur possible au trône de France. Et donc le gouvernement français a passé commande au consistoire qui avait été fondé par Napoléon quelques années auparavant pour qu'il y ait un hommage musical et pour commémorer la disparition, pour marquer, n'est-ce pas, la disparition de ces personnages, les ducs
de Berry. Le duc de Berry.
Les ducs de Berry, exactement.
Absolument. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure en écoutant l'œuvre qui est née de cette commande.
Voilà, c'est ça que je voulais en venir un tout petit peu. Et il n'avait à peine 21 ans, il venait de... Je pense qu'il venait de rentrer de son séjour romain et il s'est vu commander par le consistoire israélite de Paris et une œuvre d'envergure qui est restée longtemps à l'oubli et que nous avons eu la chance de ressusciter, grâce à vous d'ailleurs et grâce au musicologue Gérard Ganvert qui a trouvé dans les archives de la Bibliothèque nationale cette partition dont vous allez nous parler certainement.
Alors tout à fait. Alors juste pour dire un mot sur Halévy, son opéra le plus connu et c'est pas anecdotique s'appelle La Juive justement sur un livret d'Eugène Scribe. C'est un opéra assez tragique d'ailleurs La Juive parce que c'est en filigrane se dessine la persécution des Juifs. L'histoire est assez complexe. Dans mon souvenir, c'est donc une jeune juive qui s'appelle Rachel qui a été absolument, dont le père Éléazar fait l'objet de persécutions de la part notamment des autorités ecclésiastiques. Et Rachel, en plus, est courtisée par un prince catholique, ce qui ne se fait évidemment pas du tout. Donc le prince risque lui aussi d'être condamné. Et finalement, Rachel, pour le sauver, se dénonce. Et puis, sans vouloir dénouer toute l'intrigue, mais son père, donc Éléazar, et Rachel vont finir au bûcher, condamnés par un cardinal. Et il s'avère qu'en fait, Rachel n'est pas la fille de Éléazar, mais était la fille de ce cardinal. Éléazar l'avait recueillie alors que la maison de ce cardinal était brûlée. Et donc, finalement, le cardinal va, malgré lui, faire monter sa propre fille au bûcher. Et il verra avec horreur sa fille brûlée et sa fille qu'il n'aura jamais connue et qu'il regrettera tout au long de sa vie. Donc, c'est très moral comme opéra et c'était son grand succès, le grand succès de Fromental à Lévis. Et je vous propose d'en écouter de suite un extrait, peut-être l'air le plus connu de cette œuvre qui s'intitule Rachel, cante du Seigneur, dans une interprétation historique, celle du célèbre ténor Caruso, Caruso qui est mort en 1921. Donc, vous voyez, ça remonte pas hier, mais c'est toujours aussi beau. Il reste combien là, à peu près ? Un extrait donc de l'air Rachel, cante du Seigneur, l'air le plus emblématique peut-être de cet opéra la juive, écrit en 1835 par Fromental à Lévis sur un livret d'Eugène Scribe, interprété ici par le grand ténor Enrico Caruso. Et maintenant, je vous propose d'écouter de suite un extrait du psaume 100, Miss Morley Sodo, interprété par l'ensemble vocal La Truite Lyrique, dirigé par Hector Sabot, que j'ai le privilège d'avoir en ligne ce soir avec moi.
Oh,
Mizmor les Sodo, le psaume 101. Alors, c'est la prononciation ashkenaz, bien sûr, c'est Mizmor les Toda, la prononciation hébraïque moderne de Jacques Fromental à Lévy, donc extrait du CD Jacques Offenbach et ses proches de la synagogue à l'opéra, qui vient de sortir aux éditions de l'IEMJ. CD que vous pourrez commander, je vous donnerai toutes les références à la fin de cette émission. Alors, Hector, pourriez-vous déjà nous dire le nom de la soprano qui chante, qui a une voix absolument magnifique?
Absolument magnifique. C'est notre amie Magdalena Lukovic, qui est un membre assidu de notre ensemble, qui nous régale toujours avec les charmes de sa voix et qui interprète cette musique merveilleusement bien. Acclamez les seigneurs, toute la terre, adorez les seigneurs avec joie, présentez-vous devant lui avec des chants. C'est que de la louange des plus beaux psaumes, les psaumes 100, qui est d'ailleurs marqué sur la partition pour initiation religieuse. Et Alévi a inscrit cette annotation avec, il a mis mezzo-soprano ou contralto. C'est une contralto qui va beaucoup, beaucoup dans les aigus. Et là, on a pu entendre la truite lyrique dans toute sa splendeur avec ses beaux refrains chorales à quatre voix. Et bien entendu, l'accompagnement de l'orgue, comme je disais avant, qui avait une importance primordiale et pendant tout le 19e siècle, à l'époque de Alévi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Alévi a composé un certain nombre de pièces hébraïques, pas des dizaines non plus, et c'est principalement des psaumes dont la plupart ont été publiés par Samuel Naumbourg. On parlera de Samuel Naumbourg tout à l'heure, notamment quand on va parler de Meyerbeer. En tout cas, ce qui m'a semblé intéressant, en juxtaposant juste avant l'extrait de la Juive de Fromental à Lévy, suivi de ce psaume 100, Mizmor les Sodos, c'est que finalement, et c'est la question que je souhaitais vous poser, est-ce que le langage musical de Fromental à Lévy est tellement différent entre ses opéras et ses œuvres religieuses hébraïques?
Il y a une différence fondamentale qui change la couleur, qui change un peu tout, c'est l'utilisation de la langue. Et effectivement, l'hébreu dégage une couleur, une saveur particulière qui fait que c'est de la musique hébraïque. Mais les musicologues, les musiciens puristes diront ce n'est que de l'opéra romantique français chanté en hébreu. C'est toujours la polémique qui se pose jusqu'où une musique s'inscrit dans une esthétique ou une autre. Et on peut discuter longtemps, c'est un sujet que vous connaissez bien.
Mais on ne discutera pas ce soir parce qu'on a plein de choses à écouter et on ne va pas se priver de ce plaisir magnifique. Alors, une autre œuvre d'Alévi, donc présentée dans le disque et qui sera donnée partiellement au concert de gala de l'Institut le 17 novembre prochain, et le psaume 130, Mima Amakim, dont vous avez parlé juste avant. Donc ce psaume 130 a été écrit dans des conditions tout à fait particulières. Comme vous l'avez rappelé, mais je vais juste résumer, c'est effectivement Gérard Ganvert qui l'a retrouvé au début des années 1980. Et il résultait d'une commande du ministre des Cultes du roi Louis XVIII aux trois religions officielles du royaume de France, puisque à l'époque, en 1820, il y avait officiellement trois religions en France, les catholiques, protestants et les israélites, comme on disait à l'époque. Et cette commande d'une cérémonie d'un psaume funèbre, le Mima Amakim, c'est le De Profundis, le De Profondeur, donc c'est un texte tragique, avait pour objectif de commémorer la mort du duc de Berry, qui était en fait le neveu du roi et l'héritier du trône, qui avait été assassiné dans la nuit du 13 au 14 février 1820. Alors, est-ce que vous pourriez juste nous dire un petit peu, nous parler de cette œuvre? Vous l'avez rappelé, c'est le consistoire israélite de la Seine qui a fait appel en urgence d'ailleurs au jeune Alévi pour la composition de cette pièce, qui est peut-être la première pièce d'ailleurs exécutée, première pièce de musique savante dans un temple consistorial. Quoi qu'il y avait eu d'autres pièces déjà à la synagogue de Bordeaux un peu plus tôt, mais en tout cas dans un temple parisien, le temple de la rue Saint-Avoy, et l'effectif est tout à fait considérable. Cette pièce est écrite pour quelle formation?
C'est pour un grand orchestre symphonique composé d'une flûte, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, je vous dis ça de mémoire, deux cors, deux trompettes, trois trombones pour la solennité, des timbales et toutes les cordes. Donc un effectif orchestral considérable. Et il y a trois voix, un chœur à trois voix qui est prévu, avec un soliste principal qui est une basse, qui était la basse, la grande basse taille, comme on appelait en France. Et à l'époque, c'est Israël Lovi, qui était venu justement des Furtes, de la même ville que le papa de Halévy, et au nord de Nuremberg, et qui a fait tout un parcours artistique en Allemagne pour débarquer un bon jour à Strasbourg. Il a été engagé comme premier cantor de la synagogue, nouvelle synagogue consistoriale à Strasbourg. Il est resté quelques années, puis il est parti à Paris, sollicité, et à Paris, les 10 dernières années de sa vie, je crois, il a fait une carrière absolument remarquable, mais seulement dans les salons parisiens où il chantait avec les plus grandes stars de l'époque, et essentiellement à la synagogue. Et c'est lui-même, Israël Lovy, et dont j'ai eu la chance de faire beaucoup de recherches pour une soutenance des thèses en musicologie, qui a fait la création de la partie soliste. Et il y a deux voix des ténors qui sont beaucoup moins importantes, qui ont aussi une participation soliste qui se détache du chœur. Mais c'est un chœur d'homme à trois voix, avec deux voix des ténors et une voix des basses. Et donc c'est un orchestre tout à fait beethovenien, hein, et par moments on entend des échos de Don Giovanni, qui était, d'après ce que j'ai lu, le préféré de Halévy. Hein. Mmh. Il préférait Mozart à Beethoven, et puis il s'inscrit tout à fait dans la musique funèbre de l'époque, qui est absolument poignante.
Alors, malheureusement pour le disque, nous n'avons pas pu disposer d'un grand orchestre de cette ampleur-là, mais Halévy...
Pas cette fois-ci.
Pas cette fois-ci, mais c'est un appel pour pouvoir une prochaine fois peut-être mobiliser un grand orchestre. Donc, Halévy avait écrit une réduction pour piano.
Exactement. Dans la partition d'orchestre, qui est considérable, on retrouve tout en bas une partie de piano qui est simplement une réduction, qui était prévue notamment pour les occasions qu'il y aurait d'exécuter la pièce sans la présence de l'orchestre. Et donc c'est tout à fait légitime de penser à chanter ça avec l'accompagnement d'un piano, auquel je me suis permis pour l'enregistrement d'ajouter une partie de flûte. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'orchestre ne comporte qu'une seule flûte, tandis que les autres vents sont par deux et les trombones sont par trois. Et donc, en analysant la partition, je me suis dit, mais la flûte avec les pianos, ça devrait sonner magnifiquement bien. Et on a fait l'essai, et j'étais séduit, et ça y est, c'est parti, nous avons inclus la flûte dans la partie pianistique qui est prévue initialement par Halévy.
Alors, je vous propose d'écouter tout de suite le début de ce psaume, donc chanté par ce chœur d'homme à trois voix, accompagné au piano, on le signalera, par votre fils Léo Sabot et par Michael Berger à la flûte. Les trois voix d'homme sont chantées par Nicolas Kuhn, Jean-Noël Tessier et Laurent Keller. On écoute et on apprécie.
Thank you.
Le cœur du psaume 130 Mima Amakim de Profundis en hébreu de Fromental à Lévy, gravé pour la première fois d'ailleurs en CD, interprété ici toujours par l'ensemble La Truite Lyrique, et je crois aussi qu'il y a les polyphonies hébraïques de Strasbourg, si je
voilà,
ne me trompe pas.
Voilà, il y a les hommes, les pupitres d'hommes, ténors et basses, qui se sont joints aux solistes des polyphonies, de La Truite Lyrique, et qui remplissent par endroits. Il y a des sections chorales, il y a des sections avec des solos. Et donc c'est des très beaux contrastes qu'on réussit dans cette musique qui est tout à fait émouvante et inouïe, parce qu'on s'y attend vraiment pas. On s'y attend vraiment pas, et elle a une force dramatique tout à fait comparable à des requiem et d'autres œuvres funèbres de l'époque.
C'est tout à fait
remarquable.
Absolument. Alors, comme le temps passe très très vite, il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur Fromental à Lévy, mais je voudrais qu'on parle d'un autre compositeur dont une œuvre figure dans ce CD. Il s'agit de Giacomo Meyerbeer. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter, mais vraiment assez rapidement, qui est Giacomo Meyerbeer?
Giacomo Meyerbeer est encore une fois un enfant prodige, un pianiste prodige au départ, qui s'est produit dans son Berlin natal. Il était issu d'une famille juive du courant réformé, du courant qu'on appelle aujourd'hui libéral. Son père a créé les premiers oratoires et où les gens allaient prier dans une optique nouvelle d'un judaïsme inspiré par les lumières de Moïse Mendelssohn. Et donc le petit Meyerbeer, qui s'appelait Meyer à l'époque, et son nom était Yaakov.
Oui, Jacob Liebman même.
Jacob Liebman.
Meyerbeer.
Voilà. Et donc il a fait son parcours d'enfant prodige, s'est produit sur les plus grandes scènes. Il est vite parti en Italie pour faire son apprentissage de l'opéra. Et puis là-bas, il a composé, il a eu un succès phénoménal. On l'a comparé à Rossini. Et il est resté assez longtemps, à tel point qu'il a adopté un nom italien, Giacomo, au lieu de Jacob, et qu'il a gardé tout au long de sa vie. Mais l'essentiel de sa carrière s'est développé tout de même à Paris, où il a créé des chefs-d'œuvre à l'Opéra de Paris, comme Robert le Diable, et où L'Africaine, qui est son dernier opéra, il est mort justement pendant les répétitions de L'Africaine, et Les Huguenots, enfin, c'est des grands classiques de l'opéra. Et il faut se rappeler aussi que Meyerbeer était les points d'inspiration de Wagner. Oui. C'est Wagner qui, au départ, était en admiration totale et absolue, aussi bien de Meyerbeer que de Mendelssohn, et qui s'est retourné la chemise après, qui est devenu les plus grands des antisémites de la musique classique. Mais bon, ça, c'est un chapitre.
C'est un autre chapitre qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Je suis désolé de vous couper, Hector, mais comme l'émission passe très, très vite et qu'on, je voudrais faire entendre absolument donc la pièce hébraïque de Giacomo Meyerbeer, qui a une histoire très particulière, parce qu'en fait, c'est une adaptation par Samuel Naumbourg d'une pièce antérieure de Meyerbeer qui s'appelait à l'origine Prière d'enfant, publiée initialement en 1839 pour trois voix de femmes a cappella. Elle a été traduite après en allemand en 1841. Et je vous propose d'écouter à la suite donc la pièce originale, la Prière pour enfants pour trois voix de femmes, et tout de suite après ce qu'en a fait Samuel Naumbourg. Et vous verrez que la prière hébraïque est beaucoup plus lente que le modèle original en français, mais elle est tout aussi intéressante, sinon plus.
Seul pouvoir, dansons toi ta flamme, grappa dans notre âme, la loi du devoir, la loi du devoir. Lorsque tu es une mère, lorsque tu es une mère, quand l'amour résisterons-nous, résisterons-nous. La reconnaissance,
la reconnaissance,
la puissance,
à sa puissance, indivisible,
indivisible, tribu.
Puissance, amour, amour d'envie.
Un bref extrait de cette prière Ouvre-nous, Yomar, de Giacomo Meyerbeer, plus ou moins dans l'arrangement de Samuel Naumbourg, et on voit toute la différence entre les deux versions. Alors Hector, vraiment quelques mots sur ce qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas si vous aviez entendu l'original de des prières d'enfants, c'est vraiment intéressant, non ?
Absolument pas, Hervé, vous me faites un énorme plaisir en me faisant découvrir. C'est la première fois que j'entends cette version que je ne connaissais pas du tout, et je suis vraiment très content de voir et de constater les différences, et j'ai la partie devant les yeux, la partition éditée par Naumbourg, naturellement, sous le nom de Giacomo Meyerbeer, il a marqué Allegretto molto moderato, l'indication en italien qui veut dire légèrement, comment dirais-je,
modéré, joyeux, en fait, joyeux mais modéré.
Très modéré, avec une mesure à 3/8. Et donc, en travaillant sur les textes, sur comment mettre en musique ces textes qui est solennel, qui est destiné à la procession de la sortie de la Torah, c'est plutôt la rentrée de la Torah, et donc la solennité de la cérémonie, à mon avis, ne permet pas de faire un tempo aussi joyeux et staccato comme celui qui est adopté pour l'interprétation première que vous avez passée. Et les contrastes est vraiment très intéressant. L'inclusion du chœur mixte à quatre voix donne un volume, une solennité encore supplémentaire, avec la participation ici, bien sûr, des polyphonies hébraïques, et les trios des femmes qui met en valeur ces textes qui parlent de Kohanecho il Beshut Tzedek. C'est les Kohanim, les prêtres du Grand Temple de Jérusalem, qui seront habillés avec des habits de justesse, de justice, de la Tzedaka. Et l'adaptation est vraiment formidable, et Naumbourg a fait un travail qui était, que je sache, approuvé par Meyerbeer.
Absolument.
Et le résultat est tout à fait réussi.
Alors, on va être obligé de vous couper, Hector, parce que notre temps d'émission est maintenant terminé. On vous entendrait pendant des heures, et votre musique encore plus, peut-être. Merci infiniment de nous avoir fait profiter de toutes ces explications. Merci infiniment pour cette interprétation absolument magnifique de ces œuvres hébraïques, encore beaucoup trop méconnues, de Fromental à Lévy et Meyerbeer. Je recommande évidemment à tous nos auditeurs et auditrices de se procurer le CD Jacques Offenbach et ses proches, en promotion actuellement à 10 € seulement, hors frais de port inclus, sur le site de l'Institut européen des musiques juives, dont je redonne l'adresse iemj.org. Et puis bien sûr, si vous allez sur notre site, profitez-en pour réserver vos places pour le concert de gala de l'Institut, où vous pourrez entendre en live cette fois-ci les œuvres que vous avez entendues dans cette émission de Fromental à Lévy, de Meyerbeer, mais aussi bien sûr celle de Jacques Offenbach, de son père Isaac Offenbach, de Jules Erlanger, d'Émile Jonas. 1h30 de bonheur, vraiment, ne manquez pas cette soirée. Je vous rappelle la date du concert, le 17 novembre 2019 à 17h30 à la salle Cortot, dans le 17e arrondissement de Paris. Tous les renseignements sur le site de l'Institut ou au 01 45 82 20-52. Juste avant de nous quitter, je voudrais vous recommander également de ne pas manquer le concert dédié à l'œuvre, cette fois-ci classique d'Offenbach pour piano, voix et violoncelle, qui aura lieu le mardi 19 novembre 2019 à 20h, c'est seulement deux jours après, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc une autre date, une autre facette d'Offenbach à ne pas manquer. Et puis nous nous retrouverons sur cette antenne dans 4 semaines pour une nouvelle émission qui nous présentera donc cette fois-ci l'œuvre hébraïque de Jacques et Isaac Offenbach avec donc Jacob Kaufmann dont nous avons parlé ensemble. Merci infiniment Hector de nous avoir éclairé encore une fois.
Merci à vous Hervé.
Voilà, je vous propose de retrouver cette émission dans la rubrique podcast sur judaïkfm.com ainsi que sur le site de l'Institut européen des musiques juives, iemj.org, où vous pourrez, même si vous avez le temps, réécouter les 78 émissions précédentes. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter à la fin de cette émission un chant de Pourim d'Isaac Offenbach pour vous mettre un petit peu en appétit pour dans 4 semaines. Au micro, c'était Hervé Rotten, Avner à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny, I'm gushlagging nutty in the noggin, oh. I'm the sugar for my sugar, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.